Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Eh bien, mon cher Bernard, merci d'être là ce soir pour effectuer la technique de cette nouvelle émission de Pluriel Gay.
Bonsoir à tous et bienvenue à nos invités
Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que depuis quelques semaines, nos auditeurs et nos auditrices s'en sont certainement aperçus. On a eu beaucoup de problèmes techniques à la radio. Donc, moi, je pensais que c'était un mauvais sort, en fait, qui avait été lancé. Je pense qu'on a été marabouté, ni plus ni moins, par Christine Boutin. Ah, mais moi, je suis sûr que c'est elle, ça, peut-être.
C'est possible.
Voilà. Et parce qu'elle fait du vaudou, j'en suis sûr, une sorcière vaudou, Christine Boutin. Et du coup, on va voir si ce soir, le mauvais sort a été levé, si on va pouvoir faire une émission complète de A à Z.
Mais oui.
Voilà.
Il n'y a pas de problème.
On y croit fort. Alors, ce soir, je vais d'abord commencer par présenter l'élément masculin. Je suis désolé, mesdames.
Ah,
Fabien.
Désolé.
Fabien qui nous revient.
Fabrice, qui est Fabien.
Je dis Fabien, moi.
Oui, c'est Fabien.
Oh là là.
Ça va.
Ah oui, ça commence bien. Ouais.
Fabrice, c'est déjà pas cool comme
désolé. Comment. T'aimes pas Fabien? Non.
Non.
Ah bon, d'accord. Fabrizio.
Fabrizio.
Voilà, Fabrice. Il nous revient après des semaines et des semaines d'absence, on va dire.
Ouais.
Mais il est très occupé.
Ben ouais, c'est
par
ça.
Son métier.
Ben ouais. Je bouge, et je voyage.
Ce soir, il est là avec nous, avec moi en tout cas, parce que Laurent, c'est malade.
Ben ouais, je l'ai fait fuir.
Ben non, il est tombé malade, voilà.
Bon, ça va quand même.
Oui, je pense qu'elle survivra. Mais voilà, donc du coup, elle n'est pas là, je suis tout seul pour animer, heureusement que tu es là pour m'épauler. Ma petite Lolo, je t'embrasse si tu m'écoutes. Ensuite, nous avons donc comme invité ce soir principaux, Keep Smiling, l'association Keep Smiling. Tout le monde sait qu'en bon français, ça veut dire garder le sourire.
Garder le sourire.
Hein, et effectivement, elles ont le sourire toutes les deux, donc c'est très bien, mais ça, à la radio, ça ne se voit pas. Donc je le dis, elles ont le sourire. Elles le gardent en tout cas. Keep Smiling avec Alexandra, la présidente, et Magali, qui est son adjointe. Bénévole, en tout cas.
Bénévole,
voilà.
Oui.
Bah, bénévole à Keep Smiling. On va écouter, alors vous avez pourvu à la programmation musicale d'aujourd'hui. Alors ce qui est amusant, c'est que vous avez amené Moby. Moi, je ne savais pas du tout. Moby, c'est son titre Porcelaine qui m'a servi pour faire le jingle de l'émission. Vous avez amené un titre plus ancien de Moby, début des années 90. Il faut savoir qu'à la suite de l'écoute de ce morceau, qu'on va entendre tout de suite, nous aurons donc une interview, comme annoncé, de Jean-Benoît Richard du nouveau média LGBTI Committed. Voilà, si Bernard veut bien... Est-ce qu'il le veut? Parce que après tout dépend de Bernard. Hein.
We'll be right back.
Pluriel, 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 pluriel.
D'accord. T'as nous, mon Dieu. Voilà, je discutais, et puis on est déjà à l'antenne.
Il nous parlait de sa rencontre avec Moby.
Oui, j'étais en train de raconter ma vie, je suis désolé, à les invités, mais je voulais pas le faire à l'antenne, en tout cas. Ben, c'est fait. Voilà, désolé. Donc, on aura peut-être au téléphone...
Moby.
Moby au téléphone. Merci. On est quand même écoutés jusqu'en Écosse, hein, je vous le dis. Hein. Oui, si Christophe, hein, Christophe, notre ami Christophe nous écoute, de Édimbourg, on le salue d'ailleurs, à l'occasion, au passage. Alors, nous devons avoir non pas Christophe, mais Jean-Benoît Richard ce soir. Au téléphone, est-ce qu'il est là ?
Oui, il est là. Ah. Bonsoir Gérald.
Bonsoir, comment allez-vous, cher monsieur Jean-Benoît Richard ?
Très bien, et vous ?
Bah, parfaitement bien, oui. Alors donc, je précise que vous êtes donc... responsable de rédaction, ce qu'on peut dire comme ça, ou rédacteur
oui,
en chef.
Rédacteur en chef d'un site qui s'appelle Committed. Committed avec un K.
Oui.
Je peux préciser.
Absolument, un site donc d'information LGBTI, un nouveau site, on peut le dire, puisque
exactement.
Vous avez commencé récemment, le 23 avril, je crois, si ma mémoire est bonne, si ma mémoire ne flanche pas.
Ne flanche pas, effectivement, nous avons choisi de nous lancer sur le web le jour de l'anniversaire de la loi ouvrant le mariage à tous les couples.
D'accord.
Voilà.
C'était d'accord.
Une façon à nous de marquer le coup. Et puis de commencer à montrer comment nous souhaitons traiter l'actualité avec un regard LGBT+. Voilà.
Alors, dans notre studio ce soir, je ne sais pas si vous avez entendu le début de l'émission, j'ai notre chroniqueur occasionnel, donc Fabrice, non pas Fabien, comme j'ai appelé au début, et puis aussi l'association Keep Smiling, qui connaît Committee, notamment Alexandra, la présidente, nous en parlait, en bien. Donc, voilà, peut-être qu'ils voudront peut-être intervenir justement dans le courant de notre entretien. Donc le but, c'est de faire un peu connaître Committed pour les auditeurs et les auditrices qui ne le connaîtraient pas encore. Et moi, ma première réflexion, lorsque j'ai vu apparaître ce nouveau média sur le web, ce nouveau média LGBT, a été « Mais le pari n'est-il pas risqué à l'heure actuelle ?» Parce que, en ces temps plutôt incertains pour les médias LGBT, j'ai pensé à YAG, j'ai pensé à Tétu. Vous lancez à nouveau un nouveau média. Alors, est-ce que c'est pas un pari risqué, quand même ? Ou alors, vous aimez le risque ?
Écoutez, je ne sais pas s'il est risqué. En tout cas, on va essayer de tout faire pour le gagner. De faire un petit peu différemment de ce qu'a pu faire dans le passé Tétu ou de ce qu'a pu faire nos grands prédécesseurs comme YAG.
Oui. On rappelle que Tétu avait version papier et puis... ça a été un petit peu chaotique, hein, la destinée de Tétu ces dernières années. Et puis YAG, qui était un média LGBTI aussi, qui s'est retrouvé, je crois, si je ne m'abuse, en redressement judiciaire.
Même en liquidation.
En liquidation judiciaire.
En liquidation, ouais. Il a été liquidé.
Liquidé.
Au mois de décembre, il y a 2 ans, si ma mémoire ne flanche pas non plus. Voilà.
Ok. Et là,
alors, en fait,
oui, dites-moi.
Le site est édité par une société qui s'appelle Connexion. C'est un éditeur multimédia qui existe depuis 35 ans, spécialisé dans les services téléphoniques. Et les actionnaires ont souhaité diversifier l'activité de la société. C'est vrai qu'on avait déjà une première expérience sur le web, parce que nous sommes également l'éditeur du site gaypride.fr, et Committed représentait pour nous une nouvelle étape. Alors c'est vrai que ces derniers temps, la presse en ligne a été très malmenée, mais bon, nous avons quand même été confortés par le fait que, en fait, les grands médias généralistes s'intéressent beaucoup plus régulièrement aux questions LGBT. C'est le cas par exemple de Libération, qui a ouvert un fil Twitter Libération LGBT+. C'est le cas du Huffington Post. Alors je pense que c'est le signe que cette thématique s'inscrit désormais dans le quotidien. Et nous sommes persuadés que Committed intéressera non seulement les LGBT, mais aussi un lectorat beaucoup plus vaste. Voilà. Alors pour Pour ce faire, nous allons essayer de suivre trois grandes directions.
Oui, voilà, j'allais vous poser la question. Comment vous comptez vous démarquer un petit peu des autres médias déjà existants, ou ayant existé, on va dire.
Voilà, alors, bon, déjà, on va traiter de l'actualité LGBT. Alors, c'est l'actualité en France, à l'étranger, c'est la politique, le sport, la culture, avec, tu pars des articles assez courts qui sont publiés tout au long de la journée, même les jours fériés. Et puis, d'un autre côté, ce sont des articles de fond, beaucoup plus longs, fouillés, sur des thèmes originaux, qui portent en eux-mêmes une forte valeur ajoutée, notamment par les capacités professionnelles de l'équipe rédactionnelle qui a été constituée pour faire paraître Comitide. Alors, on veut aussi essayer de donner la parole à toutes celles et à tous ceux qui composent la communauté LGBT, faire connaître toute la richesse de cette population aux multiples facettes.
La diversité,
effectivement. Ça s'exprime dans une rubrique que nous avons intitulée « Dites-le fort ». Alors, si vos auditeurs se rendent actuellement sur le site, il y a à la une trois « Dites-le fort » figures. Il y en a celui d'aujourd'hui, c'est trois questions à Marion Cazot, qui raconte la vie de queer et de skinhead. On a ouvert également nos colonnes à Florent Berdeau, qui lui est l'un des responsables de la toute récente association des avocats LGBT+. Donc vous voyez, on passe du queer à l'avocat, et puis il y a également à la une cette semaine une photographe. Donc c'est vraiment exprimer toute la diversité des choses. Et puis, troisième axe, c'est des formats vidéo assez courts. Il y a des entretiens, des chroniques, face coucam, qui font 2 à 3 minutes. Autant de petits formats qui sont destinés dans un premier temps à être repris sur les réseaux sociaux. Des réseaux sociaux sur lesquels nos lecteurs sont très fortement présents, parce que nous souhaitons intéresser d'abord les 25, 40, 45 ans, une jeune génération, donc qui est très présente sur les réseaux sociaux, et les intéresser également par une manière d'écrire un peu différente, avec un ton un petit peu plus léger. On ne fera pas le monde, c'est clair. Avec un ton plus léger, un peu plus direct, et on n'hésite pas non plus à citer des extraits de Twitter, des extraits de Facebook, et puis on aime beaucoup aussi les gifs animés. Voilà. D'accord. Ça fait la spécificité de Comitide.
Alors, moi j'ai juste une question là qui me vient à l'esprit. Vous avez des salariés et des pigistes, alors, qui sont tous issus du monde journalistique ou de la photographie, ou comment ça se passe ?
Absolument. Mmh. Ce sont des professionnels qui ont tous...
Et vous avez des salariés aussi en propre ?
Oui, ce sont des journalistes salariés. Ils sont pratiquement tous embauchés en CDI.
D'accord.
Qui sont tous issus d'une école de journalisme.
D'accord.
Il n'y a que moi, qui suis plus vieux, qui ai plus surfé sur le mouvement des radios libres dans les années 80.
Oui.
Je vous interdis de faire le calcul.
Nous ne le ferons pas, je vous rassure.
Voilà. Mais bon, qui commence à avoir une certaine bouteille en la matière, notamment sur tout ce qui est le numérique. Voilà. Alors, pour réussir aussi, on a choisi un modèle économique qui est le freemium. Ça veut dire qu'une partie du contenu de Comitide est en accès libre, mais tout ce qui est plus fouillé, qui a demandé du travail, c'est les articles de fond, c'est les enquêtes, c'est les grands entretiens, les reportages, eux, ils sont tous payants. On abonnement mensuel qui est très bas. Le mois, c'est 4,50€. Il y a des formules 22,50€ pour 6 mois et encore plus avantageuses, 40€ pour un an qui sont proposés sur le site. Alors bon, pour vos auditeurs, petite information, pour le moment, l'accès au contenu payant est libre jusqu'au 18 mai. Il suffit simplement de créer un compte, mais on ne vous demande pas tout de suite de sortir votre carte bleue pour juger de notre travail. Ceci dit, qu'il n'oublie pas qu'à partir du 18 mai, eh bien malheureusement, il faudra être abonné pour bénéficier de tous nos articles un peu plus fouillés. Voilà.
D'accord. Alors vos autres sources de financement. Vous avez de la publicité aussi. Vous avez des supports publicitaires.
Absolument. Comme tout support, l'ensemble des revenus est constitué des abonnements, de la publicité, éventuellement de partenariats qui seront élaborés, qui seront signés avec d'autres acteurs. Nous n'avons que grosso modo 15 jours, 3 semaines d'existence ouverte à tout le monde. Les choses vont progressivement se mettre en place.
D'accord. Alors pour terminer notre entretien, donc je vais vous poser deux questions. Déjà, trois.
Allez, trois.
Voilà. La dernière, c'est étant plutôt des infos utiles pour nos auditeurs et nos auditrices. Alors la première, c'est des journalistes. Donc ça veut dire qu'il y aura des investigations également. Vous allez faire du travail d'investigation journalistique.
Mais il y en a déjà. Il y en a déjà. Dans les premiers papiers que nous avons sortis la semaine dernière, il y a une enquête très fouillée signée Anne-Laure Pinault sur la SOFECT. La SOFECT est cette société savante française qui a plus ou moins la main mise sur toutes les opérations de
parcours trans.
De changement de sexe pour les personnes trans et qui a des pratiques très souvent décriées par celles et ceux qui sont obligés souvent de passer par leurs mains. Ça, c'est une enquête qui a demandé près de 2 mois de travail. Voilà où est le plus. Demain, nous publions également je pense que ce sera vendredi. Voilà, c'est ça. Il y a une grosse enquête sur la mode non-genrée qui est signée Olga Volson. C'est le 10 mai, il n'y aura rien, mais aujourd'hui nous avons sorti un papier sur la PMA en Europe où nous avons analysé les grandes disparités d'un pays à l'autre. Voilà.
D'accord. Alors, donc, ça, c'était ma première question finale. La deuxième question finale, avant la fin définitive de notre entretien, c'est sa fin définitive pour ce soir en tout cas. J'espère qu'on aura l'occasion souvent reparler de comité à l'antenne et ailleurs.
Je l'espère et je vous remercie déjà de votre invitation à vous parler de ce nouveau média.
Alors vous savez, là, nous sommes à Lyon. Hein, oui. Et les Lyonnais, on est un petit peu susceptibles par rapport à Paris parce qu'on a souvent l'impression que les médias LGBTI notamment phagocytent un petit peu tout ce qui est événement parisien. Et nous, on se dit souvent à Lyon, il se passe plein de choses. À Lyon, c'est certainement une des villes où il se passe le plus de choses avec Paris en France sur le plan LGBTI. Et parfois, on n'a pas toujours l'impression que les choses sont bien reliées. Têtu, on a souvent, par exemple, accusé Têtu de parisianisme. Voilà, ce qui est une insulte dans notre bouche. Non, je rigole quand même. Faut pas exagérer. Mais j'ai l'impression, mais est-ce une impression ou pas, que quand même, Comitid essaye de s'ouvrir un petit peu ce qu'on appelle vulgairement la province, n'est-ce pas ? Mais de façon générale, de s'occuper de savoir qu'il y a autre chose que Paris, quoi, en France, y compris dans la ville LGBTI.
Je vous le confirme. Nous essayons de nous ouvrir non pas à la province, mais à la région.
Oui.
Et c'est un Marseillais exilé depuis une vingtaine d'années à Paris qui vous en parle.
Voilà.
J'ai un peu perdu le peu d'accent marseillais que je pouvais avoir. mais je suis justement, de par ses origines et de par le début de ma carrière à Marseille, extrêmement sensible à tout ce qui peut se passer dans les régions. Et je vous rassure, je connais bien Lyon aussi. J'ai eu le plaisir de courir plusieurs Lyon Urban Trail, par exemple. Oui. Donc monter à la Croix-Rousse, monter à Fourvière et faire les tours de Saône et de Rhône. Voilà, j'espère que je vous ai rassuré sur ce point-là.
Oui, non, mais c'est pas une question d'être rassuré, mais c'est vrai que parfois on a l'impression qu'en dehors de Paris, pas de, hein, y a pas de, de vie, alors que, bah, justement, à Lyon, il se passe beaucoup de choses, notamment, oui, hein, mais pas que. Oui. Et puis il y a aussi d'autres aspects LGBT qui peuvent être traités en milieu rural, dans des petites villes de région, on va dire, non pas de province, de région, voilà, etc., etc.
Pour les milieux ruraux. Je sais que nous l'avons réalisé, parce que bien évidemment vous vous doutez bien que on s'est pas lancé comme ça du jour au lendemain. Il y a eu un travail préparatoire du site pendant près de 2 mois, et au moment du salon de l'agriculture, par exemple, nous avions fait un très joli dites le fort consacré à un agriculteur, par exemple. Et nous allons continuer à nous intéresser aussi bien à ce qui se passe à Paris, en région, que aussi dans l'ensemble des pays francophones.
Alors, bah c'est très bien. En tout cas, j'ai vu que vous aviez bien relayé, donc même approfondi ce qui s'est passé à Lyon récemment avec Moussa, le Guinéen,
oui,
qui a failli
absolument.
Être expulsé.
Ça c'était Nîmes aussi,
oui.
De mémoire.
Oui, oui, parce qu'en fait, il était à Nîmes.
Il était volontaire d'aide.
Voilà.
Qui travaillait à Nîmes.
Absolument.
Et grâce à la mobilisation des Lyonnais,
oui, parce qu'en fait,
l'expulsion a pu être temporairement suspendue.
Voilà. Alors en fait, voilà, c'est ça. En fait, il était expulsé par l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Et ouais. Du coup, effectivement, il y a une mobilisation des associations, dont Aide, mais d'autres aussi, à Lyon, qui ont empêché, en fait, cette expulsion. Par contre, il a été placé sous mandat de dépôt. Moussa, il est actuellement en détention. Hein,
exactement. Il s'est opposé à une mesure d'expulsion. Ça lui vaut les foudres de la justice. On espère que le préfet du Gard décidera de réexaminer le dossier, la demande d'asile qui avait été déposée par Moussa, qui avait été repoussée par l'OFPRA.
Alors, dernière question de notre entretien avant de nous séparer, c'est évidemment les infos utiles. Comment pouvons-nous faire pour rejoindre Comitid sur le web?
Eh bien, écoutez, sur...
Déjà, avoir un ordinateur, mais tout le monde en a.
Soit sur votre ordinateur.
Ou sur portable aussi, bien sûr.
Oui. Exactement. Soit sur votre ordinateur, vous allez sur www.comitid.fr et vous écrivez Comitid avec un K, K-O-M-I-T-I-D.
Oui.
Ou alors, sur votre téléphone mobile, même chose. Bientôt, nous lancerons une application mobile pour iOS et pour Android. Elle est en cours de débugage, dirais-je. Voilà. Et puis vous nous retrouvez sur vos réseaux sociaux préférés, comitid_fr sur Twitter et comitid_fr aussi sur Facebook, ce qui vous permet de suivre bien au quotidien, quasiment heure par heure, le travail de la rédaction et de rejoindre ensuite notre site pour en apprécier la substantifique moelle.
Très bien. Bon, en tout cas, merci Jean-Benoît Richard. Nous ne manquerons pas d'évoquer régulièrement Comitid. Et puis moi, j'indiquerai aussi sur les réseaux sociaux de l'émission tous les détails pour pouvoir donc vous rejoindre, vous lire et s'informer.
Je vous en remercie beaucoup, Gérald.
Bonne soirée et merci d'avoir accepté notre demande, notre invitation à participer à l'émission.
Avec plaisir.
Et longue vie à Comitid. Bernard, on va mettre une musique. Bernard, tu t'es pas endormi? Non, ça va, tout va bien, tout se passe bien. On va mettre la suite. La suite s'appelle La Femme, c'est ça? C'est le nom du groupe?
Le groupe, c'est La Femme, oui.
Ouais, c'est La Femme. Bernard, La Femme, envoie La Femme. Thank you.
La seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Eh bien, nous voici de retour dans le studio de Pluriel Gay. Toujours à mes côtés, Fabrice et Keep Smiling, Alexandra et Magali. Alors, on va tout de suite passer la parole à Keep Smiling. Keep Smiling, l'association que j'ai déjà reçue il y a quelques années, que je reçois à nouveau avec grand plaisir, qui est une association d'autosupport en milieu festif. Bon.
Association de prévention et
de prévention, voilà, de réduction des risques. Des risques ? Quel genre de risques ?
Des risques liés à la fête, des risques liés à la consommation de produits psychoactifs, des risques liés à la sexualité, aux pratiques sexuelles diverses.
Au risque auditif et puis au risque aussi routier. Du coup, on va prendre... Puis maintenant, de plus en plus aussi, les risques de harcèlement qui sont de plus en plus mis sur le devant de la scène, on va dire, et qu'on essaye de prévenir. Donc on va essayer de prévenir chaque risque lié aux usagers des espaces festifs.
D'accord. Alors, en fait, Keep Smiling, moi, dans mon inconscient, si j'ose dire, c'est une association que j'ai déjà vue aussi sur le terrain, parce que vous avez un travail de terrain, évidemment. Alors, si je me souviens bien, à une époque, vous aviez une espèce de roue, on faisait tourner, oui. Elle existe toujours.
La roue de la RDA, oui, bien sûr.
Voilà, comme un peu la roue de la fortune, je ne sais pas si tu as déjà vu ça.
Et tu gagnais quoi, du coup ?
Et ben, en fait,
il y avait chaque couleur correspond d'ailleurs, à un outil de réduction des risques. Mm-hmm. Et la personne tourne la roue. Et ensuite, selon l'outil sur lequel il tombe, il doit essayer, par exemple, si c'est un préservatif externe, doit essayer de le mettre sur un gode, essayer de le faire comme il faut. Si la personne réussit tout de suite, et ben, la personne gagne un kit de prévention, avec donc un lot avec tous les outils de réduction des risques. Et si jamais la personne a des difficultés, et ben, elle est accompagnée justement par les intervenants de Keep Smiling pour être conseillée justement pour réussir à utiliser cet outil.
Et si c'est un roule-tapaille ou un kit d'injection, vous fournissez les drogues, ça marche comment ?
C'est un peu facile comme blague. Hein. Mais bien joué, bien joué. Non, mais forcément.
Alors déjà, Fabrice, il s'est renseigné, il connaît Roule-Tapaille. Roule-Tapaille, c'est quelque chose de spécifique à Keep Smiling, je crois. C'est un kit de sniff.
Non, AIDS, on a aussi, par exemple.
Je croyais que c'était quelque chose qui était spécifique à vous.
Alors, Keep Smiling...
Vous aviez fait, vous.
Alors, les Roule-Tapaille qui sont proposés, donc ce sont des petits carnets.
Feuilles.
Ouais, avec 10 feuilles et une plaquette, du coup, avec des inscriptions pour réduire les risques. Mmh. Et du coup, l'idée, c'est d'utiliser uniquement une paille Et qui est, ça évite d'utiliser des billets.
Alors moi j'avais gagné un kit roule ta paille, et il y avait tout ce qu'il fallait, hein. Il y avait aussi les produits pour éviter les saignements de nez, sérum physiologique pour la sniff, etc. Je trouvais ça pas mal, oui c'est bien, mais ce que Fabrice dit de façon un petit peu ironique, peut-être pas, mais ce qui peut questionner, il faut l'admettre, c'est que, bon, on sait que dans le grand public, tout ce qui est lié à consommation de drogue, tout ce qui est, bon, d'abord, c'est illégal, ensuite, il y a une farce de culpabilité sur les gens, hein, sur les personnes qui consomment de la drogue, on les culpabilise, on dit, c'était d'abord, c'est illégal, il y a une raison, ensuite, on culpabilise ces personnes, etc. Et est-ce qu'on juge aussi ces personnes? Vous n'êtes pas évidemment là-dedans, évidemment, mais on a l'impression que, alors, justement, quel est votre but? Quel est votre objectif? Est-ce que c'est l'accompagnement de ces personnes qui prennent des substances psychotropes, par exemple telles que la cocaïne ou autre chose dans les... Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Proposer un kit, c'est dans quel but en fait?
Alors, le but, c'est de réduire les risques.
D'accord.
Donc,
En
informant, aussi en proposant des outils. Donc, on ne fait pas que proposer des roules tapaille. On informe aussi le public qui vient prendre des roules tapaille et des risques qui y sont associés. Mais aussi, il y a des risques de contamination dans le partage de paille. Quelqu'un qui va prendre des billets et qui va ensuite, en plus, le donner à son collègue, il y a des risques de transmission du VHC. Donc, de permettre aux personnes d'avoir accès à des outils qui sont propres et qui sont à usage unique, c'est vraiment important. Ça a porté ses fruits depuis les années 90, où on voit qu'avec le développement des politiques de réduction des risques, on a vraiment baissé le niveau de contamination parmi les usagers de drogue. Donc nous, on continue dans cette logique qui est non stigmatisante et avec l'idée que les personnes le feront, si elles ont envie de le faire, elles le feront.
Donc autant qu'elles
le fassent avec des outils qui soient propres et avec des personnes qui puissent les accompagner et les informer. Donc on est vraiment dans cette démarche, on n'est pas du tout dans...
Voilà, mais est-ce que vous avez conscience, certains peuvent dire, vous incitez à la consommation?
Alors c'est une critique qu'on a souvent. Après,
c'est pour ça que je vous pose la question, parce que je m'arrête bien.
Mais on met tous les risques au même niveau, que ce soit les risques sexuels, les risques routiers, auditifs et les risques de produits. On distribue des préservatifs pour que les personnes qui veuillent avoir des relations sexuelles puissent le faire en toute sécurité. On distribue aussi des outils. Pour que les personnes qui aient envie de prendre des produits psychoactifs puissent le faire en limitant les risques. Après, nous, on n'est pas dans une démarche où on va... on est dans une démarche d'accompagnement. Il y a des institutions qui sont spécialisées, du coup, pour donc les XAPA, les CARUD, qui sont plus dans une logique d'accompagnement quotidien et de soins. Nous, on intervient sur l'espace festif.
Réorienter des gens vers les charrues.
D'ailleurs, on travaille avec le XAPA, les permanences au centre de santé et de sexualité.
Alors, ça tombe bien que Mayali en parle de ça, parce que j'allais aussi vous poser la question. Est-ce que vous travaillez justement, vous collaborez, je vais y arriver, tant j'ai rien pris ce soir, hein, vous vont vous recevoir, collaborez avec des... Je pense par exemple à l'INPES ou des organismes, des administrations publiques de santé publique, quoi, des administrations de santé publique comme l'INPES ou d'autres, vous en avez cité d'ailleurs.
Alors là, depuis...
Moi je dis l'INPES, c'est le premier qui me vient à l'esprit.
Maintenant c'est Santé publique France.
Oui.
Mais oui, c'est eux qui nous envoient les préservatifs.
D'accord.
Ouais, aussi, on a, depuis l'année dernière, on travaille avec le FDT, avec leur pôle trend, où on va faire remonter aussi les tendances des usages de drogue aussi, pour essayer d'informer au mieux la population des tendances dans l'usage de drogue au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Vous faites testing aussi, par exemple?
Oui, alors le testing, les tests... avec les tests du marquis avec les couleurs ont été interdits en 2005. Donc, en tant qu'association, on ne peut plus les proposer.
Okay.
Par contre, là, depuis, Depuis quelque temps, on met en place de la chromatographie sur couche mince, donc en partenariat avec Médecins du Monde. Et là, on participe à la création d'un laboratoire régional avec Posdiabolo, un des Carudes de Lyon. Et du coup, à chaque permanence, tous les vendredis de 17h à 21h, chaque personne peut amener un produit qu'on va collecter. Ensuite, pour l'instant, on l'envoie à Médecins du Monde pour qu'ils puissent ensuite l'analyser. Et la semaine d'après, on reçoit le résultat. D'accord. Donc là, avec la création du laboratoire régional, les délais vont être beaucoup plus rapides et on sera peut-être en mesure d'avoir le laboratoire de temps en temps sur des interventions sur l'espace festif.
On est urgent de savoir ce qu'ils prennent aussi, parce que dans les drogues, il y a pas mal d'additifs, il y a des fois
c'est pas forcément les produits de coupe, etc. Et oui, c'est une démarche de réduction des risques, tout à fait.
Donc, Kim Smiling fonctionne avec des moyens. Alors, est-ce que vous recevez des subventions, des financements déjà, de la part des acteurs de la santé publique, par exemple, ou de la région ?
Oui, bien sûr. Alors, on fonctionne avec des subventions publiques, avec l'Agence régionale de santé qui nous subventionne. Les différentes 1000 DK de Auvergne-Rhône-Alpes.
Oui.
Parce que du coup, on intervient sur tous ces départements. On a aussi des subventions de SIDAction. Enfin, on a plusieurs financements, oui.
Et vous, est-ce que Keep Smiling a des salariés des personnes?
Oui. Alors, normalement, on a dans notre structure, on a 3 salariés. Actuellement, on n'a que 2 salariés. Et depuis la semaine dernière, on recherche une 3e personne.
Ben voilà.
Une offre d'emploi.
Keep Smiling recherche un 3e salarié, ou une 3e salariée.
Chargé de mission, animateur, animatrice de prévention.
Et donc le reste, le gros de la troupe sont bénévoles.
Oui.
Alexandra, par exemple, tu es bénévole ?
Oui.
Tu es présidente, parce que c'est une association, il faut le rappeler, loi 1901.
Tout à fait.
On est d'accord. Donc des bénévoles comme toi, Alexandra, présidente, comme Magali. Alors chacune et chacun, vous avez des spécificités. Vous me disiez, par exemple, tout à l'heure, hors antenne, que vous étiez des formatrices. Alors vous formez à quoi, en fait ?
Chaque personne qui est intéressée pour devenir bénévole et qui fait un entretien bénévole, ensuite pour intervenir sur les soirées pour faire de la prévention, nous on organise des formations en interne où on va former les bénévoles
sur la réduction des risques, l'histoire de Keep Smiling, les produits psychoactifs et le matériel qu'on distribue, la santé sexuelle et aussi le matériel qui correspond, et tout ce qui est aussi question de genre et d'identité sexuelle, réassurance aussi, parce que c'est aussi une de nos missions en espace festif. C'est lors d'accompagnements ponctuels auprès de personnes qui sont pas forcément très bien avec en montée un peu rapide.
Et vous, donc vous avez des supports pour travailler, vous allez dans les milieux festifs, mais peut-être pas que, dans des boîtes de nuit, mais pas que. Je vous ai vu dans des bars, en fait, la fois où je vous ai rencontré, c'était donc dans un bar gay. Comment vous faites, par exemple, dans une soirée festive, une discothèque, par exemple, vous restez pendant toute la durée de la soirée, ou vous avez un...
Le plus souvent, toute la soirée,
donc, vous avez
festival.
Un endroit prévu,
exactement,
attribué à Keep Smiling.
Un stand, on met des tables, on entrepose nos fly, le matériel, et c'est là aussi qu'on peut aller vers les gens, que les gens viennent vers nous.
Et spontanément, les gens y viennent, ou c'est vous qui devez aller à la pêche
Non, sur les nuits sonores, on n'y est pas. Non, on n'y est pas depuis très longtemps.
D'accord.
C'est une autre association de réduction des risques qui y est.
Ok.
Après, sur les espaces festifs LGBT, on s'est rendu compte avec... Donc, la section LGBT à Keep Smiling existe depuis 2008. Donc, on a quand même 10 ans de recul sur l'évolution de l'espace festif LGBT. On s'est rendu compte que pour comparer avec un milieu plus techno-alternatif, les personnes avaient un peu de mal à venir vers le stand. Parce qu'il y a une connotation derrière, il y a aussi peut-être de la stigmatisation, et parce que nous, on ne stigmatise pas aussi, peut-être. Et du coup, depuis plusieurs années, on a mis en place aussi un système de panières où on a justement un peu un peu comme les ouvreuses de cinéma, de spectacle, avec des guirlandes et puis
du déguisement
qu'il y a avec. Et du coup, dedans, on met des outils, des flyers, et ça nous permet, nous, d'aller au contact du public et de les informer sans que peut-être il y ait à faire la démarche d'aller vers un stand et qu'il soit connoté « Ah, je m'intéresse à ce genre d'information, donc je suis concernée, donc peut-être que j'ai besoin d'aide. » Et il y a des personnes qui ne sont peut-être pas prêtes à assumer cette image-là. Donc au lieu d'aller stigmatiser ou quoi, on a essayé de trouver d'autres idées pour aider les personnes à avoir accès à l'information sans se sentir mal à l'aise.
Alors, c'est intéressant que, Alexandra, tu évoques donc le milieu LGBTI, le milieu festif LGBTI, parce que vous avez effectivement dans votre site, dont on rappellera les coordonnées à la fin de l'émission, une section spécifiquement LGBTI. Et moi, la question que je me suis posée, y a-t-il une spécificité, justement, une configuration particulière de la consommation? Bon, on peut parler évidemment de la consommation de sexe, etc. Bon, mais surtout de la consommation de produits psychotropes. Parce qu'il y a une spécificité, une configuration plus précise, une figure plus précise du LGBT en boîte qui va prendre tel ou tel type de drogue qui ne se verra pas dans d'autres soirées comme les soirées techno alternatives par exemple, ou les soirées plus mainstream, etc., etc. Est-ce qu'il y a une spécificité LGBT dans la prise de dans la consommation de psychotropes en milieu festif?
Alors, moi, j'aurais tendance à dire non. Alors que historiquement, c'est vrai qu'on a beaucoup associé la communauté LGBT+ à des consommations de type GHB, poppers, ecstasy.
Poppers,
voilà.
Ça fait longtemps. Hein.
Voilà. Non, mais et après associé à un milieu techno voilà. Beaucoup plus héroïne, speed, avec un milieu aussi assez psychédélique. Enfin bon, voilà, on a eu tendance à séparer. Et on observe de plus en plus que les derniers rapports trend montrent qu'il y a une hausse de la consommation de la cocaïne dans tous les milieux. Le GHB, on n'arrête pas de nous dire ces derniers temps que ça se répand aussi dans d'autres milieux.
Dans le clubbing hétéro.
Voilà. Et donc, c'est très difficile d'aller dire qu'il y a des particularités dans les consommations LGBT+. Après, c'est vrai que...
Il y a peut-être plus de tabous autour de l'usage de drogue.
Il y a peut-être plus de tabous. Et puis après, il y a les clubbeurs, les sexeurs. Enfin bon, je pense que la communauté LGBT+, maintenant, on a aussi différentes communautés au sein de la communauté, différents mouvements, on va dire. Et c'est très difficile de parler de... Ça me dérangerait de dire qu'il y a des consommations propres à... la communauté LGBT+.
C'est quelque chose qu'on aurait pu constater, etc.
Après, voilà, par exemple, que ce soit les produits de synthèse, dont on parle énormément, du coup, en lien avec le chemsex et d'autres pratiques festives, c'est des consommations qui se retrouvent aussi dans le milieu techno, donc c'est...
Alors justement, Alexandra, tu parles du chemsex, et là je vais me retourner vers Fabrice, qui voulait nous en parler justement. Le chemsex, c'est une... un phénomène, on va dire, qui remonte à quelques années, qui d'abord a touché beaucoup les pays anglo-saxons, et puis maintenant qui touche aussi la France et d'autres pays. Le chemsex, c'est quelque chose qui est lié plutôt au sexeur, comme disait Alexandra, plutôt qu'au milieu proprement festif. Mm-hmm. C'est dans le cadre, en tout cas, on imagine, d'activités bien précises, hard, gay, masculine, en général. Alors, je ne sais pas si je caricature, mais c'est un peu l'image qu'on en a du chemsex, la drogue du sexe. Voilà.
Ouais, c'est un peu ça. Du coup, je vous ai fait une petite histoire.
D'accord.
Alors voilà, 23h47, la bite dans une main et l'iPhone dans l'autre, qui grâce au multitâche, je parle de mon iPhone, me permet de laisser tourner Scruff, Grindr et Growler. Il est temps de potentialiser ma soirée. Une gorgée de bière et j'allume l'ordi pour y faire tourner Ricorn et Guerroméo, tandis que YouPorn est déjà en boucle sur ma télé connectée. J'ai l'impression d'être un super-héros. En une fraction de seconde, à l'aide de ma vision Bluetooth géolocalisée, je peux voir tous les super-mecs autour de moi et avoir un rapport détaillé de tout ce qu'il y a à savoir. Leur statut sérologique, la taille de leur bite, s'ils sont actifs, passifs ou les deux, s'ils aiment ou pas se faire pisser dessus, mais aussi et surtout voir les drogues dont ils disposent ou approuvent l'usage. Je suis partout à la fois, la babine alerte au moindre woof, flash ou like, essayant par mes clics compulsifs de trouver à ma crampe avide un corps dans la nuit pour y déverser ses lubies. Au début, je trouve ce mec vachement baisable, presque trop pour moi. J'oserais pas. Voilà qu'il mord à l'hameçon et m'envoie ses photos explicites. Je confirme, il est vraiment baisable. Il me propose un plan Kems, bien sûr, de toute façon, depuis un an ou deux, on me propose que ça. Depuis le temps que je dis non, si je tentais l'expérience. Et puis merde, ça va pas me tuer, un peu de fun, après la semaine que j'ai eue, j'ai bien mérité un peu d'évasion. En fait, il est pas seul et c'est finalement à une touze à laquelle je me rends le cœur battant. Une dernière gorgée de bière pour me donner du courage, et c'est alors que s'ouvre à moi une symphonie chimique et érectile en plein milieu de ma nuit. GHB, GBL, PCP, MD, shit, K, cristal, acide, diazépam, lorazépam, caféine, nicotine, codéine, kétamine, amphétamine, héroïne, les petits nouveaux aussi, 3MMC, 4MEC, MDPV, M4, et même des petits noms mignons, comme le miaou miaou, ça peut pas me faire de mal avec un nom pareil. J'ai envie de lui plaire, que ça dure des heures. Je me ferai un chemin parmi ses corps haletants, une trace, un rail, une gorgée de jet. Tant que je ne m'injecte rien dans le bras, tout va bien. Le temps s'arrête, plus de soucis, que le plaisir. Et puis je sors de là après 6 ou 8 heures de baise, je sais plus trop en fait. Il fait plein jour et la ville a repris son rythme sans moi. Je me dis, c'était le meilleur plan de ma vie. Et j'ai déjà une furieuse envie de le revoir. Au bout de 2 ou 3 fois, je me rends compte que quand même les effets secondaires sont aussi hard que le plan et que en fait le mec me plaît pas tant que ça. Mais j'y retourne quand même. Et puis la baisse sans Kems petit à petit m'ennuie. Je trouve d'un coup vachement compliqué d'amorcer le désir sans cette petite poudre qui exalte mes sens. Quelques mois passent et sans que je m'en rende compte, mes plans cul sont devenus des marathons. Et je ne me souviens plus de la dernière fois où j'étais excité sans la présence de ma petite poudre blanche. Plus ça va et plus je me défonce alors que parallèlement, moins je baise. Ça y est, la drogue est passée au premier plan, le plan cul n'est qu'un prétexte. Voilà, c'est l'histoire banale d'un PD lambda en 2018. 18, c'est le nombre de morts à Lyon depuis le début de l'année liés à l'usage de drogue dans le cadre de plan Kems. Il n'y a pas une semaine sans une overdose parfois mortelle. À Paris, on est à une centaine de comas par an, simplement dû au GBL ou au GHB. Il y a encore 3 ans, c'était 10 fois moins. La consommation de drogue n'est plus limitée aux seules boîtes et teuf. Maintenant, elle est entrée dans nos lits et dans nos fantasmes, dans une constante recherche de performance. Les applis et les sites de rencontres ont redonné un coup de boost à ces pratiques sexuelles et permettent une accessibilité immédiate à tout, tout le temps, tout de suite. Alors, on va pas se mentir, la drogue, bah, c'est bon. Enfin, en tout cas au début. Le problème, c'est la dynamique du toujours plus qui est indissociable du concept même de drogue. Quoi qu'on en dise, ben, la drogue, soit tu arrêtes à un moment, soit elle te rattrape, et c'est souvent déjà trop tard. Car ce qui est bon, ben, c'est la montée. Toujours plus hard, toujours plus de drogue, toujours plus de partenaires, toujours plus de mélanges, mais aussi toujours plus de risques. Alors, loin de moi l'envie de vous culpabiliser ou de poser un discours simpliste du drogue, du type « la drogue, c'est mal, vous voyez ». Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la vie, rien n'est facile, immédiat et sans contrepartie. Parce que quand c'est bon, ben, forcément, c'est gras, sucré et ça fait grossir. Bien que Sport Elec nous le promette, personne n'a jamais développé des abdos d'acier à bouffer des chips sur son canapé. Alors, aussi vrai que les 21/6 annoncés se réduira inexorablement à un 17 bien placé, je suis au regret de vous avouer qu'avec une potion qui donne accès à l'extase assurée, il y a inévitablement un vice caché dans ce trop simple accès au plaisir. Parce que les pouvoirs publics tardent à se soucier de ce phénomène qui se répand dans notre milieu comme une traînée de poudre, il faut en parler, il faut se bouger, se questionner et s'observer. Parce que j'ai du mal à garder le sourire quand chaque début de semaine, j'entends autour de moi « Eh, au fait, t'as pas vu ? Machin est mort le week-end dernier. C'est dingue, non ? Enfin, en même temps, ça m'étonne pas, c'était un cramé. Hein. Pff, il était sexe, hein, c'est con, j'ai pas eu le temps de coucher avec lui. Tiens, en fait, t'as reçu la petite livraison de 3M pour la tousse chez Franck samedi ?»
Alors, 18 morts, vous confirmez, ce chiffre ahurissant depuis le début de l'année à Lyon. C'est,
oui.
Hein, c'est ça, c'est à Lyon,
19 ans. Ouais, hein, ouais.
Donc, le chemsex, donc, c'est un phénomène que vous avez pris en compte, je suppose.
Ouais.
Et est-ce que vraiment vous ressentez dans votre démarche quotidienne, de votre travail de Keep Smiling, ce phénomène du chemsex ? Déjà, c'est dans des lieux spécifiques, ça peut être dans le privé aussi, hein, on peut consommer
oui,
du chemsex.
Oui, le chemsex, ça va être soit dans des lieux, soit dans des lieux privés, soit dans des établissements qui autorisent du coup
les
activités sexuelles. Où là, le dernier rapport de Trend mettait en évidence que ils retrouvaient de plus en plus de matériel d'injection en supposant des pratiques de slam, du coup, d'injection dans des dans un rapport sexuel. Donc on a de plus en plus tout nous laisse penser que c'est un phénomène qui s'étend en fait. Il est de plus en plus pris en compte par les associations. Ça reste très difficile pour les associations de trouver quelle attitude avoir en fait face au phénomène du chemsex.
Et puis comment rencontrer les gens, parce que c'est vrai
et comment rencontrer les gens
privés,
souvent les personnes qui vont dans le chemsex ne sont pas forcément des gens qui ont une culture d'usage ou qui vont être entourés de personnes au début qui sont consommateurs. C'est assez difficile pour eux de savoir vers qui se tourner, parce que souvent les personnes, du coup, les personnes de la qui sont HSH et dans une logique de consommation de produits pour des relations sexuelles sont à la fois minoritaires parmi les consommateurs produits et à la fois minoritaires parmi la communauté LGBT+, du coup, vers qui se tourner sans être jugé. C'est assez compliqué et historiquement, du coup, depuis la naissance des associations, depuis les années 90, on est dans une... on a plutôt des associations spécialisées dans la santé sexuelle et des associations spécialisées dans les produits. Or là, on est à la rencontre des deux. Et du coup, ça devient assez difficile pour les associations de répondre à ces questions. Sur Lyon, ça s'est mis en place petit à petit, notamment sous l'impulsion de AIDS, qui a mis en place récemment des ateliers, enfin des after-work. Le dernier était le 3 mai, là. Pour que les personnes puissent discuter et avoir un accompagnement par rapport à leurs pratiques. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. On a à la fois une définition qui commence à se faire petit à petit, c'est-à-dire que quand on parle de chemsex, on va parler d'un certain type de pratique, donc avec un certain... avec souvent plusieurs personnes, avec un maintenant ça
souvent
devient
c'est dans les milieux hard avec les
voilà maintenant ça, et ça va être maintenant quand on parle de chemsex, on parle pas d'alcool ou de cannabis, on parle de catinone, on parle
c'est des produits de synthèse en fait,
oui voilà,
on parle de nouveaux produits de synthèse,
on parle de produits de synthèse,
c'est aussi ça la difficulté, c'est qu'on les connaît très peu, ces produits là que on se fournit sur internet, donc
on n'a pas le recul aussi,
voilà
ce que ça fait sur le temps. Moi, ce qui me fait flipper dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une banalisation de l'usage de drogue. Par le fait que déjà il y en a de plus en plus, et puis comme tout le monde en prend, notamment dans le enfin, on peut pas se connecter à Grindr sans qu'il y ait un mec qui nous propose un plan chems, quoi, vraiment, c'est la réalité maintenant. Alors il suffit qu'on aime un peu les plans hard pour que ce soit 80% des mecs qui proposent un plan chems, quoi. Et du coup, il y a une espèce de banalisation, ça devient tellement normal de prendre les drogues, et on oublie que c'est quand même pas anodin, quoi, qu'il y a des gens qui en meurent. Tout à l'heure, tu faisais le comparatif en disant on dispose des capotes et on roule ta paille, sauf que jamais personne n'est mort par un coït, quoi. Bon, je parle pas du sida, bien entendu, mais on meurt juste de l'usage de drogue. Et la drogue, c'est mauvais pour la santé en soi, quoi. C'est quelque chose qui détruit les neurones, c'est des choses, puis tout le monde est assez inégal face à la drogue, il y en a qui partent loin, etc. Donc je pense que dans le discours, il faut quand même rappeler que c'est pas anodin, que se prendre de la drogue ou quoi, c'est pas rien, quoi. C'est pas comme juste avoir un coït, quoi. Ça peut vraiment apporter des trucs compliqués, quoi.
Mais l'usage... comment expliquer ça? L'usage de drogue, empêcher l'usage de drogue, ce n'est pas possible. Ça fait 50 ans qu'on est dans cette démarche.
C'est donner les informations, quoi. Tu vois,
tout à fait.
C'est pour ça qu'on est là aussi.
C'est absolument ce qu'il faut faire. Après, maintenant, la difficulté, c'est-à-dire que là, depuis quelques temps, on voit apparaître beaucoup d'articles sur le chemsex, sur les consommations aussi de GBL, GHB, notamment suite au surdose qu'il y a eu Rex Club. Il y a eu de nouvelles... beaucoup d'articles sont sortis sur ces sujets. Il faut faire attention à ne pas céder à une sorte de panique morale où au final on va tellement essayer d'en parler qu'on va créer une panique et qu'on va stigmatiser ces personnes qui ne vont même plus oser aller demander des informations. et de l'autre côté, ne pas être trop discret, réussir à dire bah, on est là pour vous donner des informations et du coup aider les personnes qui en ont besoin. Il faut que les associations arrivent à trouver leur chemin entre, publicité, publicité et discrétion. Il faut
justement,
réussir
dans ce, juste mieux, tu parlais des roules tapailles tout à l'heure. Moi, je me posais la question sur ces roules tapailles qui sont un peu packagées de manière sympa, etc. Le fait de communiquer autour d'un objet cool sur la consommation de drogue, mmh. Est-ce que c'est pas un moyen aussi de promouvoir ça, de dire ouais, en fait, prendre de la drogue, c'est cool, quoi?
Non, pas du tout. En tout cas, à Keep Smiling, on a des roules tapailles qui sont vierges, qui sont blancs, et du coup, on a juste une plaquette pour les tenir ensemble avec des messages de prévention dessus.
D'accord.
Et le but, c'est de rester aussi dans une certaine discrétion, c'est-à-dire que la personne, si elle veut laisser penser que c'est des post-it, et ben, elle peut le faire, et ne pas se sentir jugée par des personnes qui pourraient dire tout de suite « Ah, mais t'as quelque chose avec écrit une paille, un sniff », quelque chose comme ça. C'est du coup essayer de trouver un peu cet équilibre entre la discrétion, pour que les personnes soient confortables, pour qu'elles se sentent à l'aise et demander des informations, et de l'autre côté aussi dire « Eh, on est là, n'oubliez pas de nous demander des informations, il faut faire attention, et on est là pour vous accompagner ».
Alors malheureusement, l'émission touche à sa fin, donc je vais vous demander de donner les informations utiles pour les auditeurs, les auditrices. Vous avez un site internet,
oui,
qui est très bien fait d'ailleurs,
qui est en train d'être fait.
D'accord.
En plus,
l'adresse,
c'est keep-smiling.com. Et si
page Facebook aussi,
on a une page Facebook Keep Smiling. Et si vous souhaitez nous rencontrer, parce qu'on est toujours à la recherche de bénévoles qui partagent toutes ces valeurs de la réduction des risques et qui souhaiteraient s'investir dans les soirées à nos côtés pour aider le public festif. On a des permanences qui sont ouvertes au local de l'association, qui est aux 3 rue Barraban à Lyon, donc entre La Pardue et Villeurbanne. C'est ouvert tous les vendredis de 17h à 21h, et vous pouvez y venir soit pour rencontrer l'équipe, et puis aussi pour récupérer du matériel, des flyers, discuter si vous avez une quelconque question sur votre consommation, un proche ou qui que ce soit, en fait, que vous vouliez discuter avec des bénévoles sur la réduction des risques en espace festif, vous êtes évidemment les bienvenus.
Même de musique et de soirée.
Et surtout de musique et de soirée.
Voilà, tout est dit. De toute façon, je rajouterai toutes les infos utiles aussi sur les réseaux sociaux liés à l'émission. On va devoir se quitter, mais vous reviendrez nous voir pour approfondir certains sujets.
Ah bah oui.
Hein, voilà.
C'est sûr.
Et allez, on revient. On y reste. Mais c'est bien, il faut revenir, effectivement. C'est des sujets intéressants qui nous préoccupent et qui nous intéressent. Merci Fabrice d'être venu, d'avoir pris de ton temps. Merci Bernard à la régie. Et merci à nos invités, Alexandra et Magali.
De rien, avec plaisir.
Voilà. Merci.
Et à très bientôt, j'espère. Équipe Smiling, on les retrouve aussi à la Gay Pride. Vous avez toujours un très joli
show.
Avec de la bonne musique, on
espère. Avec de la musique.
Toujours. Ouais. Rendez-vous les 16 juin.
Bon, voilà, on peut parler encore. C'est pas fini. Salut!
L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.